SBS live streams and podcasts are supported by advertising.
SBS is Australia's most trusted multilingual broadcaster. Our listeners are loyal, highly engaged, and have supported countless local businesses. We offer advertising packages for businesses of all sizes. Our experienced sales team will guide you through the process of owning a great campaign. Bring your own ad or have our production team make you something in one of our 68 languages. Start the conversation with your new audience today. Email sales@sbs.com.au.
Vous êtes avec SBS French. Retrouvez les rubriques sur sbs.com.au/French.
Nous rendons hommage aux propriétaires traditionnels de la terre à partir de laquelle SBS French diffuse. Le peuple Wurundjeri de la nation Kulin, ainsi que leurs aînés passés et présents. Nous rendons hommage également à toutes les tribus et clans aborigènes, ainsi que les insulaires du détroit Torres auxquels nous diffusons.
SBS, a world of difference. You're with SBS French, on mobile, online and on radio.
Vous êtes avec SBS French sur votre smartphone, en ligne et à la radio.
Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue sur SBS French. Bertrand Tounganamé et Christophe Mallet pour vous accompagner pendant une heure de programme en français. Dans cette édition, rencontre avec une professeure de langues européennes et du français à l'université de Monash, spécialiste du cinéma français. Nous parlerons également de technologie à la découverte des objets connectés. Et comme tous les mardis, Patricia Meunier présente un décryptage de la politique australienne. Cette semaine, elle revient notamment sur les prestations invalidité. Mais sans tarder, l'actualité de ce mardi 27 août. Au sommaire de cette édition, le gouvernement australien annonce qu'il va limiter le nombre de places pour les étudiants étrangers à partir de l'année prochaine. Après un premier round de consultations, la France n'a toujours pas de Premier ministre, Emmanuel Macron ayant écarté l'idée d'un gouvernement nouveau Front populaire. Et la Russie lance les attaques les plus massives contre l'Ukraine en visant essentiellement les infrastructures énergétiques. Le gouvernement australien va limiter le nombre de nouveaux étudiants étrangers à 270 000 l'année prochaine, dont 145 000 places réservées pour les universités publiques. Le ministre de l'Éducation, Jason Clare, déclare que les plafonds assureront la viabilité du secteur au moment où le gouvernement tente de limiter l'immigration après une augmentation de 73% des arrivées au cours du dernier exercice. Les universités se sont fortement opposées à la création de plafonds, affirmant que cela nuira à leurs institutions et à l'économie australienne en général. Le trésorier fédéral Jim Chalmers a profité d'un discours sur la cohésion sociale pour qualifier le chef de l'opposition Peter Dutton de leader de grand parti le plus clivant de l'histoire australienne. Le trésorier fédéral a fait cette déclaration lors d'une allocution devant les fidèles du Parti travailliste hier à Melbourne, à 9 mois seulement des élections fédérales. Le docteur Chalmers a déclaré que bien que la politique australienne soit relativement exempte des violences politiques, cela ne doit pas être pris pour acquis et repose sur un leadership qui évite la politique de la division. De son côté, le leader de l'opposition, Peter Dutton, a rétorqué que la caractérisation que fait de lui le trésorier Jim Chalmers est une tentative de détourner l'attention de sa mauvaise gestion de l'économie.
There's nothing that he can point to apart from the fact that he wants to talk about everything but his failure in the economy. Now, if Australians were doing it so well and the economy was running, you know, as great as Jim Chalmers claims it is, why is he dedicating a speech to me? It seems when you have a look at the Labor Party at the moment, you've got Tony Burke saying, look at me. You've got Bill Shorten saying, look at me. You've now got Jim Chalmers saying, look at me.
Le ministre du logement, Claire O'Neill, affirme que le gouvernement reste ferme sur sa décision de placer le syndicat de la construction CFMU sous administration, en arguant que des dizaines de milliers d'ouvriers que des milliers de milliers d'emplois sont en jeu. De leur côté, des dizaines de milliers d'ouvriers du secteur de la construction ont annoncé un mouvement de grève pour protester contre cette décision. La ministre du Logement a annoncé sa décision en arguant que les syndicats fonctionnels est nécessaire et ce pour assurer la viabilité du secteur et surtout pour répondre à la pénurie critique des logements à travers le pays. Cela intervient au moment où la ministre O'Neill doit rencontrer ce mardi les dirigeants des États et territoires pour discuter de la question. Le gouvernement envisage en effet de construire 1,2 million de logements sur 5 ans à travers le pays. Claire O'Neill a déclaré sur Channel 9 que le gouvernement s'efforce de résoudre les problèmes d'accès au logement et la lutte contre le sans-abrisme.
We're in the middle of a housing crisis here, and the big answer to that crisis is that we need to build more homes. To do that, we absolutely need a construction sector which is working as efficiently and fairly as possible, and that's a part of the picture here. More homes means more affordable housing for Australians. Today I'm talking to states and territories about how we can meet that target, what they need from the Commonwealth and what the Commonwealth needs from the states in order to make it happen.
Et la France n'a toujours pas de nouveau Premier ministre 50 jours après les législatives. Le président Macron a bouclé hier son premier round de consultation des partis avant un probable second round à partir de ce mardi. Dans la matinée, il a reçu les leaders du Rassemblement national, Marine Le Pen et Jordan Bardella. Le flou n'est pas dissipé, mais le chef de l'État a exclu l'hypothèse d'un gouvernement casse-tête. Valérie Gasse, RFI.
Emmanuel Macron est resté droit dans ses bottes. Les consultations menées depuis vendredi devaient lui permettre de démontrer qu'un gouvernement casse-tête n'avait pas les moyens d'être soutenu par une majorité stable. Selon l'un de ses proches, il en a fait la preuve en démontrant qu'il serait immédiatement censuré. Emmanuel Macron poursuit toujours le même objectif, essayer de désolidariser les socialistes, les écologistes et les communistes de la France insoumise. Il appelle ces trois partis de gauche à coopérer avec les autres forces politiques qui ont accepté la voie d'une coalition. Le président annonce d'ailleurs un nouveau cycle de consultations auxquels ne sont pas conviés LFI, mais aussi le RN et Éric Ciotti, une manière de limiter la suite des négociations aux forces de l'arc républicain. Et en annonçant la présence de personnalités, il élargit le cercle au-delà des partis pour préparer peut-être l'option de secours, un gouvernement technique. En faisant un point d'étape, le chef de l'État a voulu prendre les Français à témoin de ses efforts, mais au NFP, où on avait préventivement refusé de participer à d'autres consultations, communistes et écologistes ont fustigé la décision d'Emmanuel Macron et LFI a annoncé le dépôt d'une motion de destitution du président. Le bras de fer continue.
Le frère de Zomi Francom, une travailleuse humanitaire australienne tuée lors d'une frappe israélienne à Gaza, a appelé à davantage d'actions à la suite de sa mort. La travailleuse humanitaire a été tuée ainsi que 6 autres de ses collègues travaillant pour l'ONG The World Central Kitchen alors qu'ils tentaient de livrer des provisions essentielles en avril dernier. Son frère, Mal Francom, affirme que les actions des forces de défense israéliennes après la mort des travailleurs humanitaires étaient insuffisantes. 2 officiers israéliens ont été retirés de la force et 3 autres ont été réprimandés, mais M. Francom déclare que davantage doit être fait. S'exprimant sur le programme 7:30 d'ABC, M. Francom a déclaré qu'il aimerait voir les responsables de la mort de sa sœur traduits en justice. Et en 10 mois de guerre, le ministère de la Santé de Gaza déplore plus de 40 400 morts et parmi eux, de nombreux journalistes. Une 60aine d'organisations internationales de défense de la presse demandent à l'Union européenne de suspendre son accord d'association avec Israël. Ces associations déplorent les atteintes à la liberté de la presse et la mort des dizaines de journalistes sur place. Écoutez Julie Majersak, représentante de Reporters sans frontières, auprès des institutions européennes.
La situation est vraiment critique, puisque plus de 130 journalistes ont été tués depuis le 7 octobre, donc depuis le début de la guerre entre Israël et le Hamas. Il y a eu des condamnations verbales répétées de l'Union européenne, mais là on atteint vraiment un point critique. Et pour nous, il est essentiel que l'Union européenne passe à la vitesse supérieure et donc suspende l'accord d'association entre l'UE et Israël. C'est un accord commercial dans lequel il y a quand même un article 2 qui dit que les relations entre l'UE et Israël sont fondées sur le respect des droits humains et les principes démocratiques. Et il est clair aujourd'hui que cet article est piétiné, bafoué par le gouvernement Netanyahou. Et donc, il nous semble pour nous indispensable que l'UE revoie sa relation avec Israël et suspende cet accord.
Hier, l'Ukraine a été le théâtre d'une campagne de bombardement massif de la Russie. 15 régions d'Ukraine ont été visées par les attaques russes, l'attaque la plus massive depuis plusieurs semaines. L'armée russe a visé particulièrement les infrastructures énergétiques du pays. Et comme le souligne Emmanuel Chaz, représentant correspondant de RFI à Kiev, le Kremlin cherche surtout à perturber la production électrique de l'Ukraine.
Ces coupures d'électricité sont le résultat le plus visible de l'attaque russe à grande échelle sur l'ensemble du pays ce matin. Dans toute la capitale ukrainienne, on entend à nouveau les générateurs qui avaient été silencieux depuis plusieurs semaines. Volodymyr Zelensky parle de plus de 100 missiles et 100 drones lancés par la Russie sur les infrastructures critiques et énergétiques du pays. Ces attaques ont fait au moins 4 morts, des dizaines de blessés et des dégâts considérables. DTEC, le plus grand fournisseur privé d'électricité, a diffusé une vidéo montrant que le barrage sur le Dnipro, juste au-dessus de Kiev, a lui aussi été endommagé. On ne connaît d'ailleurs pas encore l'étendue de la destruction. Ailleurs dans le pays, des explosions ont retenti à Loutsk, Kharkiv, Dnipro, Odessa, Kriviri, Vinnytsia, entre autres. Kiev en appelle une nouvelle fois à ses alliés pour aider l'Ukraine à défendre son ciel, ses infrastructures et sa population contre ces attaques russes que Moscou entend qualifier de vengeance pour l'incursion ukrainienne à Koursk, mais qui, de fait, ont lieu régulièrement sur le sol ukrainien depuis le début de l'invasion à grande échelle de l'Ukraine par la Russie.
Anglicare Australia affirme que le système fiscal en vigueur contribue à l'inégalité des richesses. L'ONG a publié un rapport examinant la répartition des richesses au cours des deux dernières décennies en Australie. Le rapport intitulé « Widening the Gap » révèle que les Australiens les plus riches détiennent 90 fois plus de richesses que ceux qui en ont le moins. Et toujours en Australie, un homme palawa de l'Otruita, l'Otruita c'est le nom aborigène de la Tasmanie, est devenu le premier aborigène d'Australie à remporter le concours international de beauté Mr. Universe. Johnny Berry a été couronné Mr. Universe lors du concours qui a eu lieu en Inde la nuit dernière. Ce mannequin, acteur, comédien et habitué de la scène, avait déjà représenté l'Australie lors du concours Mr. World en 2019. Le concours Mr. Universe n'est pas sans controverse car Johnny s'est vu interdire de porter le drapeau aborigène en raison des problèmes des droits d'auteur. Et pour conclure l'actualité de ce mardi 27 août, une page météo à travers les principales villes du pays. Perth averse s'atténuant et un maximum de 21 degrés. Adélaïde, fort s'atténuant et principalement ensoleillé avec un maximum de 23 degrés. Melbourne, venteux et partiellement nuageux, 20 degrés. Averse en augmentation à Hobart et venteux avec un maximum de 20 degrés. Canberra, temps partiellement nuageux, 17 degrés. Wollongong, ensoleillé, 23 degrés. Sydney, également ensoleillé avec un maximum de 24 degrés. Newcastle, à peu près pareil avec un maximum de 25 degrés. Et à Brisbane, temps partiellement nuageux avec 28 degrés. Et une ou deux averses à Cairns avec 28 degrés. Et pour Darwin, temps ensoleillé et 35 degrés. h 12 minutes 57 secondes sur les antennes de SBS Audio. Vous êtes toujours à l'écoute du programme en français. Après une courte pause, nous retrouvons le magazine des sports de Christophe Mallet.
Journal des sports, et on débute avec du football et les résultats de la deuxième journée du championnat de Ligue 1 en France. Le Paris Saint-Germain a atomisé Montpellier sur le score de 6-0. Monaco est allé gagner à Lyon sur le score de 2-0. Lille a battu Angers 2-0. Le Havre a battu Saint-Etienne chez eux, donc à la Beaujoire, sur le score de 2-0. Lens bat Brest sur le score de 2-0 également. Strasbourg bat Rennes sur le score de 3-1. Nantes bat la JOCR sur le score de 2-0. Match nul 1-1. partout entre Nice et Toulouse et match nul également entre Marseille et Reims. D'ailleurs, on écoute Quentin Merlin, il est défenseur marseillais.
Et on est déçu de pas avoir la victoire ici à domicile, puisque ce public ne nous a pas lâché. On les remercie, on leur demande de continuer comme ça. Et après, c'est à nous de faire le travail pour pas avoir ce résultat à domicile. On prend deux buts, donc on a manqué l'attention. Et ça, c'est surtout point négatif à revenir. Et la prochaine fois, on ne doit pas faire ça, parce qu'on menait à la mi-temps. On aurait pu mener 3-0 à la première mi-temps. On rate des occasions, on est solide. Donc c'est le football, c'est comme ça, mais c'est les erreurs qu'on doit retenir et pas les refaire la prochaine fois.
Quentin Merlin, le défenseur donc de l'OM. Au classement, le Paris Saint-Germain est en tête avec 6 points devant Lille, Monaco, Lens et Marseille 5e. En bas de classement, Saint-Étienne est 16e, Lyon est 17e et Brest est 18e. Allez, on part maintenant en Espagne, on reste sur du football, mais on part en Espagne. Les débuts un tout petit peu timides de Kylian Mbappé. Après un match un petit peu laborieux dans son premier match, eh bien c'était sa première apparition au stade Santiago Bernabéu, le stade mythique du Real Madrid. Et comme je vous l'ai dit, ça a été un petit peu timide pour la star française, Martin Guèze.
L'attaquant français avait sûrement rêvé meilleure entrée dans le mythique stade de Santiago Bernabéu. Très critiqué lors du premier match en championnat du Real cette saison, un match nul un partout à Mallorca, Mbappé a tenté de se rattraper face à Valladolid. Maladroit, le joueur de 25 ans est paru emprunté et ses petits coéquipiers n'ont pas eu besoin de lui pour s'amuser. Ils ont même attendu sa sortie du terrain pour se lâcher. Victoire finale 3-0 grâce à Valverde, Diaz et Henrique. Mais pas touche à Mbappé, son entraîneur Carlo Ancelotti est monté au créneau pour le défendre. Il n'est pas inquiet, mais alors pas inquiet du tout.
Non, je ne pense pas, absolument pas. C'est un attaquant spectaculaire. Il est très rapide. Il se déplace très bien sans le ballon. Il attaque la profondeur. Il a eu 3 ou 4 occasions ce soir grâce à son mouvement sur le terrain. Je pense qu'à ce poste de numéro 9, il va marquer comme il l'a toujours fait. Je ne pense pas qu'il ait besoin de jouer à gauche ou à droite ou dans l'axe. Il finira par marquer des buts.
Al final va marcar goles.
Voilà, reportage de Martin Guèze et les propos de l'entraîneur du Real Madrid, Carlo Ancelotti. Allez, un mot de cyclisme pour vous rappeler que la Vuelta continue dès ce soir sur SBS à la télévision. La Vuelta, le Tour d'Espagne, qui est vraiment une course complètement folle, complètement ouverte, avec, je vous rappelle, la victoire avant la journée de repos dimanche du Britannique Adam Yates. Victoire incroyable, il en croyait pas ses yeux lui-même. On écoute Adam Yates.
I never suffered like this before. It's so hot out there. I mean, from the last climb, I was cramping full, and I didn't know if I could go. You know, I've had a lot of bad luck over the years in Grand Tours, and I really didn't know if I could make it, but I'm just so happy I could finally win another Grand Tour stage.
C'était donc Adam Yates sous une chaleur donc de 40 degrés avec une échappée incroyable de près de 50 km. Au classement, eh bien c'est toujours l'Australien Ben O'Connor qui a le maillot rouge, donc leader de cette Vuelta, de ce Tour d'Espagne. Je vous rappelle, Ben O'Connor avait fait une flambée un peu plus tôt dans la semaine. On l'écoute le moment où il a récupéré ce maillot de leader.
Yeah, I felt a little bit my own world today. When the group of 30 went, I was a bit disappointed because I thought it was a pretty good opportunity. When the race opened up again, I kind of just went for it. I felt today was just a day to seize my opportunity, and I just laid it all out there, and I felt like I could win this stage from the start. So it's pretty special when you can just go out and crush it like that. I absolutely loved every moment. Yeah, I enjoyed today a lot. It was beautiful racing, I think, all around, and I was looking at the Triple Grand Tour winners, the list of guys who have done it before this race started, so I'm proud to put my name there on that list, and yeah, I guess I have the red jersey as well, so it's going to be a once in a lifetime experience maybe, so I'm going to enjoy every moment.
L'Australien donc Ben O'Connor, je vous conseille vraiment, et pas simplement parce que moi je suis un passionné de cyclisme, mais je vous conseille vraiment de regarder la Vuelta cette semaine, ça va être incroyable pour les paysages, mais pour le côté sportif également. Voilà, c'est tout pour le sport pour aujourd'hui, on fait une courte pause et on se retrouve dans quelques instants pour la suite de notre programme. À tout de suite.
Et c'était La Grenade, une chanson de Clara Luciani. À présent, nous allons marquer une pause. Et après la pause, on retrouve Patricia Meunier au micro de Christophe Mallet pour nous décrypter l'actualité politique australienne en ce milieu de semaine.
Les programmes de SBS sont disponibles en podcast et vous pouvez les écouter quand vous voulez. Pour s'inscrire ou télécharger, www.sbs.com.au/french.
Et comme chaque mardi, on va passer à la semaine politique analysée par Patricia Meunier. Et aujourd'hui, le ministre Bill Shorten a confirmé la conclusion d'un accord pour le système des prestations en cas d'invalidité, le fameux NDIS, National Disability Insurance Scheme. Il a rejeté les affirmations selon lesquelles les économies prévues de 14 milliards de dollars dans ce secteur équivaudraient à des coupes budgétaires.
Le gouvernement australien vient d'adopter un projet de loi qui va réformer de manière importante l'assurance invalidité, le NDIS, le National Disability Insurance Scheme. En effet, mercredi passé, le ministre en charge, Bill Shorten, a annoncé la conclusion d'un accord avec les États et les territoires sur la manière de travailler ensemble dans ce domaine. Le Sénat a adopté le projet de loi Getting the NDIS Back on Track qui vise à réduire les coûts croissants du programme. Le système coûte actuellement 46 milliards de dollars par an et il devrait dépasser les coûts de Medicare d'ici à 2 ans, si rien n'est fait pour l'en empêcher. Cette situation n'étant pas financièrement soutenable pour le gouvernement, ce dernier cherche donc à freiner les coûts. Ainsi, la nouvelle législation a introduit un plafond de croissance de 8% contre 14% actuellement. L'objectif est de réduire les coûts de 14,4 milliards de dollars sur 4 ans. Le ministre du NDIS, Bill Shorten, affirme que cette situation doit être résolue. On l'écoute.
The aim is to be able to assure people on the scheme. It's there for the future. That it's fair, equitable and transparent.
Mareike Jonkers, la présidente des personnes avec un handicap en Australie, craint que les changements soient un pas en arrière pour les personnes concernées, notamment si l'on coupe dans les prestations et les services.
It's really, really emotional because we fought for decades to have the NDIS, to have those rights, to have the freedom, to have the choice and control to live a life the same as every other Australian.
Le cheminement du projet de loi au Parlement n'a pas été facile. Il a été vivement critiqué, en particulier par la communauté des personnes handicapées. Selon ses représentants, les changements dans le cadre de ce programme auront de graves répercussions sur de nombreuses personnes. Maria Kejankas pense que la réforme pourrait même entraîner une hausse des coûts. On l'écoute.
There's a yes list and a no list. Sometimes if something is broken on my wheelchair, we will go to Bunnings and buy parts. And have a friend fix it who's technologically minded. And it's a few dollars. That costs a whole lot more spending thousands of dollars for a registered provider to come.
Tout n'est pas négatif. Parmi les nouveautés de la nouvelle législation, un système de soutien pour les personnes handicapées qui n'ont pas accès au NDIS. Il s'agit par exemple de services de défense des droits, d'aide à l'emploi, ainsi que des soutiens à domicile, comme l'aide aux courses ou au ménage. Pour l'heure, il reste encore beaucoup de choses à déterminer dans cette réforme. Bill Shorten ne s'en cache pas.
There's no one day where this scheme gets better, but the passing of the legislation is basically the construction of the scaffolding, which will allow us to go and co-design new needs assessment tools, new budget tools. It'll allow us to resolve our consultation with people with disability about a list of what you can spend money on and a list of what you can't spend money on. This will always be a work in progress.
Du coup, beaucoup d'inquiétudes planent dans les communautés concernées. Personne ne sait encore ce que sera NDIS dans le futur. Le projet de loi va maintenant revenir à la Chambre des représentants où il devrait être adopté. Ensuite seulement, les détails seront finalisés petit à petit.
Vous pouvez nous écouter quand vous le souhaitez. Téléchargez émissions, interviews et actualités à la demande. Visitez la page sbs.com.au/french.
Bientôt, vous verrez peut-être moins d'actualité dans vos fils d'actualité sur les réseaux sociaux en Australie. C'est donc le moment de télécharger l'application SBS Audio. Assurez-vous de recevoir toutes nos informations, points de vue et histoires dans notre podcast SBS Language pour rester connecté aux sujets qui vous tiennent à cœur. L'application SBS Audio est gratuite sur l'App Store et Google Play.
Litamara Ibeko ye Ibeko da Marono Ni
Et c'est un joli morceau Mogolo par un duo d'artistes aveugles, en fait, qui nous viennent du Mali. Nous allons encore marquer une autre pause et après la pause, on retrouve Jean-Noël Ducasse en conversation avec Felicity Chaplin, une professeure à l'université Monash, spécialiste du français et surtout une passionnée du cinéma français. À tout de suite.
Vous êtes avec Radio SBS en français.
Plaisir d'avoir Dr. Felicity Chaplin, qui est lecturer European Languages, French and Francophone Studies à Monash University dans le Victoria. Bonjour et bienvenue.
Bonjour.
Parlez un petit peu du cinéma, parce que c'est votre spécialité, le cinéma français. Et là, je crois que vous travaillez en ce moment sur un livre sur Julie Delpy.
Oui, c'est vrai. Je suis en train d'écrire un livre sur Julie Delpy. Ça sera la première monographie en anglais consacrée à l'actrice, scénariste et réalisatrice. Ce qui m'intéresse chez Julie Delpy, c'est qu'elle écrit, réalise et joue dans ses propres films. Je suis aussi intéressée par le domaine de l'écriture personnelle, en particulier l'autofiction. Julie Delpy a se lancé dans la réalisation en 2002 avec son film Looking for Jimmy, suivi par Two Days in Paris, Le Contest, Le Skylab, Two Days in New York, Lolo et My Zoe. Et son nouveau film Les Barbares sortira sur les écrans en France septembre cette année. Donc, Il y a plein de choses à discuter en ce qui concerne les films de Julie Delpy comme scénariste et réalisatrice. J'utilise aussi ces mots réalisatrice pour décrire elle et ce qu'elle fait aussi. Mais bien sûr, elle a une carrière impressionnante comme actrice aussi. Donc, ouais. Elle a fait des collaborations avec des grands cinéastes comme Carax, Tavernier, Godard, bien sûr, Agnieszka Holland, Kieślowski. Uh-huh. Mais elle a aussi fait cette trilogie célèbre avec Richard Linklater et Ethan Hawke, donc Before Sunrise, Before Sunset, Before Midnight. Ouais.
On parle aussi des articles que vous écrivez régulièrement. Je crois que le dernier qui a paru, c'était sur François Ozon et aussi Remembering Paris in Text and Film.
Ah oui, donc j'ai écrit quelques chapitres pour ces livres du cinéma. Donc un chapitre dans ces livres Remembering Paris in Text and Film, c'était un chapitre sur le Paris dans les films d'Agnès Varda. Mm-hmm. Donc dans ces chapitres, j'ai examiné bien sûr Cléo de 5 à 7, mais aussi Paris comme lieu dont quelques courts-métrages d'Agnès Varda. Oui, et j'ai écrit aussi un chapitre pour un livre sur les films de François Ozon. Dans ce chapitre, j'ai traité son film Jeune et jolie. Et ce chapitre parle un peu de la relation entre la francité, mais aussi la mondialisation dans ces films Jeune et jolie. Ouais.
Et aussi, vous avez écrit des livres sur Charlotte Gainsbourg, d'après ce que je comprends.
Oui.
Et la relation avec son papa?
Oui, donc...
Relation cinéma, relation chanson...
Oui, exactement. Donc, oui, en 2000, 2022, la revue Celebrity Studies a publié un numéro spécial sur les enfants des célébrités. Ouais. Et la relation entre Charlotte et Serge Gainsbourg et leur collaboration artistique m'a toujours fascinée. Mais en fait, je n'ai pas eu l'occasion de vraiment l'explorer, cette collaboration, cette relation dans mon livre sur Charlotte Gainsbourg. Donc, cet article examine en particulier la chanson Lemon Incest et aussi le film Charlotte Forever. Mais le livre sur Charlotte Gainsbourg a paru en 2020, donc pendant la pandémie.
Donc, oui. Ouais.
Ça, c'était la première monographie en anglais consacrée à l'actrice et chanteuse. Sa carrière était déjà longue, donc 60 films, 5 albums, des collaborations remarquées avec des grandes marques de mode, comme notamment Balenciaga et Yves Saint Laurent. Donc l'idée d'écrire un livre sur son activité m'est apparue assez évidente. Mais ce qui me fascine sur Charlotte Gainsbourg, c'est un peu sa dualité. Donc elle est à la fois timide et provocatrice. Il y a aussi, bien sûr, les côtés Birkin Gainsbourg, donc l'histoire fascinante de sa famille. Donc, oui, j'ai écrit un article sur la collaboration artistique père-fille, hein, donc entre Serge et Charlotte, mais je voudrais aussi également écrire quelque chose sur cette relation mère-fille, surtout après la sortie de son documentaire Jane par Charlotte, que j'ai beaucoup aimé. Ouais. Il y a vraiment aussi un lien, hein, donc on parle un peu d'Agnès Varda, il y a un lien entre ce documentaire d'Agnès Varda aussi, Jane B. par Agnès V. Donc oui, je voudrais explorer un peu plus cette relation entre Charlotte Gainsbourg et Jane Birkin et ces documentaires fascinants. Donc oui, le livre sur Charlotte Gainsbourg, c'est avant tout basé sur vraiment sa vie d'actrice. Mais dans le dernier chapitre, j'examine ce que j'appelle le transmedia stardom de Gainsbourg, en la considérant en tant que chanteuse, égérie, mannequin de mode, metteur en scène et célébrité aussi. Donc oui. J'aime beaucoup cette dualité de Charlotte Gainsbourg, mais je trouve en fait une dualité chez Julie Delpy, c'est différent, mais mm-hmm. Cette dualité, c'est plutôt peut-être qu'elle est française-américaine, qu'elle est actrice, mais aussi réalisatrice. Donc, ouais, peut-être il y a un lien. Un fil rouge là, entre mes projets de recherche.
On peut parler de vos projets d'avenir. Je vois aussi que vous publiez des critiques dans The Australian Book Review. C'est surtout basé sur des films français ou des films en général?
En général, c'est plutôt les films français. Et j'aime bien écrire des critiques des films pour les films français, mais aussi des films européens et de temps en temps d'autres films. Donc, par exemple, j'ai écrit un critique de film sur deux films de Wes Anderson, donc The French Dispatch. Donc, mm-hmm. Il y a même là un French Connection et aussi Asteroid City, donc son film le plus récent. Mais j'aime bien aussi donner mes recommandations pour le festival du film en français d'Alliance française ici à Melbourne. Donc chaque année, j'essaie de donner mes coups de cœur pour le festival du film français aussi.
Et il y a eu des coups de cœur cette année-ci pour vous?
Cette année, oui, j'avais puis a beaucoup aimé le film Les Reines d'Animal, c'est ça, The Animal Kingdom, Les Reines d'Animal, je crois, c'est le titre en français, avec Romain Duris. Aussi Alma Gloria. C'est un très beau film et en fait j'ai déjà vu ces films l'année dernière à MIF, Melbourne International Film Festival. J'ai beaucoup aimé aussi le film sur Bonnard et sur sa femme Marthe. Ouais. Mm-hmm. Ah, il y a aussi en fait un film de Guillaume Canet aussi avec Alberto Varga. Et ça, c'était un très bon film aussi.
Est-ce que les gens peuvent accéder à ces livres que vous écrivez dans les librairies, dans les bibliothèques en Australie?
Oui, bien sûr, oui. Dans les bibliothèques et dans, enfin, pas forcément dans les librairies, mais on pourrait commander ces livres dans les librairies en Australie, oui.
Felicity Chaplin, merci d'être venue nous rendre visite à SBS et à très bientôt sur SBS en français.
Merci beaucoup Jean-Noël.
Vous êtes avec Radio SBS en français.
Assurez-vous d'obtenir une vue d'ensemble complète, pas seulement ce que votre fil d'actualité sur les réseaux sociaux vous offre. Retrouvez toutes nos actualités et histoires sur le site SBS Language. Enregistrez notre site sbs.com.au/language dans les favoris de votre navigateur dès aujourd'hui. Et c'était Chocho de Weravana. Nous allons marquer une pause et après la pause, on retrouve Christophe Mallet en conversation avec Reynald Galiz pour parler technologie, notamment des objets connectés.
Vous êtes avec Radio SBS en français.
Et aujourd'hui, on va parler technologie dans le programme en français sur Radio SBS avec Reynald Galiz. Bonjour Reynald.
Bonjour.
Alors vous êtes, on va dire un spécialiste un peu de plein de choses et notamment d'objets connectés. Et c'est aussi pour ça qu'on se parle aujourd'hui. On va découvrir un peu tout ça. Expliquez-nous déjà cette révolution des objets connectés, question très large. Mais c'est un vrai fait du moment, ça, les objets connectés.
Ouais, alors pour moi, il y a deux types d'objets connectés. Hein. Et les premiers objets connectés... qu'on connaît bien, c'est tout ce qui est Fitbit, l'Apple Watch, donc ce qu'on appelle plutôt des consumers objets connectés. Donc, là où ça devient plus intéressant, c'est dans l'aspect industriel des objets connectés, où effectivement ça va changer complètement la manière dont les entreprises vont travailler. Ça va complètement perturber les entreprises, parce qu'elles vont maintenant connecter des choses qui leur permettent de réduire leurs coûts ou d'avoir des manières de travailler ou fournir de nouveaux services aux clients qui sont vraiment innovatrices. Donc c'est cette partie-là moi qui m'intéresse plutôt que le côté gadget des côtés consommateurs.
D'accord, alors ça c'est super intéressant en fait, parce que c'est vrai que bon, si on parle du côté consommateur, il y a encore 5 ans, avoir une montre connectée, ça relevait de la James Bond. Aujourd'hui, il y en a à peu près dans toutes les rues, il y a des gens à côté de nous partout qui ont des montres connectées, mais on se rend pas bien compte justement dans tout ce qui est corporate, dans tout ce qui est business, à quel point ça change les choses, à quel point ça change la donne. Et c'est pour ça que c'est super important d'avoir des choses telles le NBN, des réseaux hyper performants derrière pour soutenir ça.
En fait, c'est tout l'opposé. Les objets connectés, c'est capable de connecter n'importe quoi de manière extrêmement simple à des coûts extrêmement faibles. Et justement, il n'y a pas besoin de réseau NBN. NBN, ça va être super pour connecter son téléphone, transférer de la vidéo, de la photo. L'objet connecté, justement, le principe de l'objet connecté, c'est que ça soit un produit qui soit extrêmement simple, de très faible coût, de l'ordre de 10-20 $, qui aura des fonctions extrêmement simplifiées. Par exemple, vous donnez l'information quelle est la température, qu'une porte soit ouverte ou fermée, simplement vous donnez une géolocation d'un élément d'une entreprise. Et pour ça, il n'y a pas besoin de transférer beaucoup d'informations. Et justement, on utilise des nouveaux réseaux pour ça, qui entre autres, nous on utilise la technologie Sigfox, qui est une technologie française, et qui permet d'envoyer seulement 12 bytes. Et 12 bytes, c'est presque rien. C'est,
J'aurais cru que sur le volume d'objets connectés, on aurait quand même une obligation d'avoir un réseau conséquent derrière.
Non, en fait, ce qui se passe, c'est qu'on envoie on a des millions d'objets qui sont connectés, mais chaque objet envoie seulement 12 bytes. Et l'intérêt de ça, c'est que il n'y a pas besoin en fait d'avoir des réseaux qui envoient beaucoup de data au bout du compte, parce que même 12 bytes multipliés par 1 million, ça reste des volumes extrêmement faibles, de l'ordre d'une vidéo.
D'accord.
mais là où c'est intéressant, c'est qu'en fait, comme on n'envoie pas beaucoup d'informations, ces objets connectés vont envoyer des batteries qui peuvent durer jusqu'à 10-20 ans.
D'accord.
Donc, imaginez par exemple un compteur d'eau qui va être connecté automatiquement sur le réseau Sigfox et qui va avoir une durée de vie de 15 ans. Et qui va vous envoyer une information tous les jours pour vous dire la consommation d'eau, elle est de temps. Et justement, à partir de cette information qui est vraiment toute simple, être capable de déterminer au quotidien, de dire attention, là, il y a une fuite d'eau parce que la consommation l'a doublé ou triplé aujourd'hui. Et à l'heure actuelle, la manière dont ça fonctionne, c'est qu'il y a quelqu'un tous les 3 mois qui va vérifier votre compteur et va vous envoyer une facture. Et un mois plus tard, vous allez recevoir votre facture et vous allez vous rendre compte que votre consommation elle a triplé et vous savez pas pourquoi.
Et on vous dit que c'est de votre faute et voilà.
Voilà, on vous dit que c'est votre faute ou alors on va aller vérifier et ce sera passé 6 mois et pendant 6 mois, il y aura une énorme fuite d'eau. Maintenant, au quotidien, on est capable de dire avec des objets connectés et c'est tout l'intérêt. Envoyer des informations extrêmement simples, de manière relativement faible, c'est-à-dire une fois par jour ou 2-3 fois par jour, mais qui va vous donner une information extrêmement intéressante et un très très faible coût.
D'accord. Donc, quand on parle de réseau comme ça, est-ce que l'Australie n'y aurait pas un problème à propos des distances ? Elle est connectée à un compteur d'eau qui est au fin fond du bush ou est-ce que justement ces réseaux, les nouveaux réseaux peuvent aussi pallier à la distance aussi, la différence entre les certains points?
Ouais, bah, la beauté de ces nouveaux réseaux, c'est qu'en fait, comme on envoie très très peu d'informations, ils ont des très longues distances. Donc c'est-à-dire, on peut avoir une borne qui se connecte, un objet qui se connecte dans le bush à 200 km de la borne, alors que si c'est un téléphone, il faudrait être à 2-3 km maximum de la borne. Donc du coup, on peut avoir, en déployant 1000 antennes en Australie, on peut couvrir 95% de la population, alors que si c'était du 3G ou du NBN, il faudrait avoir 100 000 antennes pour couvrir l'équivalent.
D'accord. Là, il y a une conférence qui arrive en Australie. Vous allez en faire partie. Mm-hmm. Vous allez bien sûr expliquer tout ça. Est-ce qu'on est à un moment charnière dans l'histoire justement des objets connectés?
Ah oui, carrément. Carrément, parce que ces réseaux-là, à très faible consommation, à très faible coût, n'existaient pas il y a 2 ans. Donc le fait qu'ils apparaissent maintenant, en Australie par exemple, on couvre maintenant 75% de la population, presque 90% de la population en Nouvelle-Zélande, et ça s'est fait en l'espace de 6 mois. Imaginez un réseau 3G, ça a dû prendre, pour faire l'équivalent, ça a dû prendre 4-5 ans.
Et on parle même pas du NBN. Hein.
On parle pas du NBN, on parle d'un objet qui est vraiment dédié aux objets, qui est donc sur la technologie Sigfox, qui permet justement d'avoir des objets qui vont coûter 10-20 dollars, qui vont avoir des durées de vie de 3 à 15 ans, suivant l'utilisation, et qui vont avoir un coût en matière de connectivité de l'ordre de 1 à 2 dollars par an. Donc imaginez par rapport à du 3G, la manière dont on se connecte à l'heure actuelle, au mieux vous payez 10 dollars votre abonnement par mois et votre objet 3G va vous coûter 200 dollars. Donc des coûts extrêmement plus faibles, mais la grosse différence c'est sur la consommation énergétique, parce que votre objet connecté en 3G, la batterie, il va falloir la recharger tous les 2-3 jours. Là, votre batterie, vous la rechargez qu'une fois tous les 10 ans. En fait, vous la rechargez même pas, vous changez l'objet.
Est-ce que à terme, ça veut dire que c'est des choses qui sont aujourd'hui dans le business et dans tout ce qu'on appelle un peu le corporate, etc. Est-ce que ce qui va filtrer dans l'objet de tout à chacun?
Bah, en fait, nous, ce qui nous intéresse à l'heure actuelle, c'est les marchés industriels, parce qu'il y a des vraies économies à faire, réduire la consommation énergétique, réduire tout ce qui est perte en matière de nourriture, en matière de consommation. On peut avoir des applications au niveau industriel maintenant qui sont extrêmement efficaces grâce à ces coûts extrêmement faibles. Maintenant, il y a des applications toutes bêtes dans le marché consommateur. Imaginez un tracker pour chien. Vous avez votre chien, vous avez un petit tracker de la taille d'un lipstick.
Un rouge à lèvres.
Un rouge à lèvres, excusez-moi. Mais imaginez un petit tracker de la taille d'un rouge à lèvres que vous auriez à charger que tous les 3 ans, que vous attachez au collier de votre chien et que dès qu'il sort de la maison ou qu'il est en dehors de votre périmètre établi, et ben il va vous envoyer une information pour vous dire attention, le chien a sorti son périmètre et voilà où il se trouve. Donc il y a des applications dans le domaine consommateur qui vont arriver et donc là c'est des produits qui vont être de l'ordre de moins de $100 et qui incluent 50 connectivités.
D'accord, alors si on veut en savoir plus, vous avez un site internet ?
Notre propre site c'est thinxtra.com, thinxtra.com.
D'accord, on mettra tout ça sur notre site internet. Merci, c'était super intéressant de vous parler donc sur les choses et les appareils connectés. C'était Rénal Galis, merci.
Merci.
SBS French, mardi, jeudi, samedi et dimanche, à 13h ou à tout moment, en ligne.
Je vis de femme née de solitude, sans famille mais j'ai l'habitude, un peu d'air pur. Le temps que ça dure, bien pour caresser la surface de nos engelures. Il creuse où ça fait mal. Mon corps est constamment malade. La mort est un peu trop banale. Je peux passer encore un autre mois de mai à mourir.
C'était pas la peine, un morceau de la Canadienne Rosée. Place à présent au rappel des principaux titres de l'actualité de ce mardi 27 août. Le gouvernement australien annonce qu'il va limiter le nombre de places pour les étudiants étrangers à partir de l'année prochaine. Et après un premier round de consultation, la France n'a toujours pas de Premier ministre, Emmanuel Macron ayant écarté l'idée d'un gouvernement nouveau Front populaire. Et la Russie lance les attaques les plus massives contre l'Ukraine en visant essentiellement les infrastructures énergétiques. Voilà, cette édition touche à sa fin. Merci de nous avoir suivis. Prochain rendez-vous avec le français, jeudi à la même heure. Bon après-midi, je vous laisse en compagnie de J-Boy par Phoenix.
Aimez, partagez, commentez. Suivez-nous sur facebook.com/sbsfrench.
SBS is Australia's most trusted multilingual broadcaster. Our listeners are loyal, highly engaged, and have supported countless local businesses. We offer advertising packages for businesses of all sizes. Our experienced sales team will guide you through the process of owning a great campaign. Bring your own ad or have our production team make you something in one of our 68 languages. Start the conversation with your new audience today. Email sales@sbs.com.au.